pourquoi il a été relâché? Est-ce qu'il faut resserrer?
Est-ce qu'on a tout fait pour tenter de l'arrêter sécuritairement?
Il faut empêcher que les tablettes des commerçants qui vendent des armes de poing puissent se remplir.
Bonne fin de journée, tout le monde. Encore bien des questions restent sans réponse au lendemain, donc, de ces événements survenus à Montréal, cette chasse à l'homme au terme de laquelle l'auteur présumé d'une série de meurtres a été abattu par les policiers. Il y a des documents juridiques qui lèvent aujourd'hui le voile sur les troubles psychologiques du suspect. On y apprend, entre autres, là, que son psychiatre jugeait qu'il représentait un risque important pour la sécurité du public en raison de son état de santé mentale. J'en parle avec mon collègue Louis-Philippe Bourdeau. Salut, Louis-Philippe.
Salut, Michel.
Alors, la décision juridique à laquelle on fait référence, c'est un jugement de la commission d'examen des libérations conditionnelles, non, des troubles mentaux, c'est ça?
Exactement. La commission d'examen des troubles mentaux, c'est pas très connu au Québec, mais si cette décision-là existe, c'est particulièrement en raison d'événements survenus en 2018. Abdullah Cheikh qui s'est présenté à l'aéroport de Montréal. Il y a plusieurs incidents qui s'y sont produits. Notamment, il avait tenté à ce moment-là de brûler son passeport avec une chandelle. Il a été arrêté, mais reconnu non criminellement responsable des gestes posés en raison de sa santé mentale. Donc, depuis ce temps-là, son dossier est évalué à chaque année devant cette commission pour assurer la sécurité du public. Et dans ces documents, bien, on voit le profil de l'homme. On peut aller voir ce tableau. On apprend qu'il a été hospitalisé en psychiatrie entre juin 2020 et février 2021, qui était soumis à plusieurs conditions après sa libération, garder la paix, suivre les recommandations des médecins et qu'il a été accusé également d'agression sexuelle et de voies de fait.
Et donc, pas plus tard qu'en mars dernier, on estimait qu'il pouvait être dangereux pour lui et pour la population.
Mais c'est ça qui soulève un très grand nombre de questions aujourd'hui. On peut aller voir certains extraits de la décision. On peut lire que le jour de l'audience, bien, le médecin traitant est d'avis que monsieur représente toujours un risque important pour la sécurité du public en raison de sa santé mentale. Par la suite, on peut lire parmi les inquiétudes, bien, le déni, la banalisation des troubles de comportement, de la violence, pathologie psychiatrique. On souligne aussi l'aspect d'imprévisibilité des comportements agressifs du patient. La décision a été rendue. On a appris qu'il a été libéré, qu'il devait suivre des conditions que j'ai mentionné un peu plus tôt, et bien là, on connaît la suite des choses.
Et il y a l'ancien avocat du présumé tueur qui a réagi, tu as recueilli ses commentaires?
Oui, il a dit qu'il était très ébranlé par les événements des derniers jours, dit que lorsque ce jugement a été rendu, bien, rien laissait présager de la suite des choses, qu'une telle tragédie pouvait se produire. Il dit être très empathique vis-à-vis de la douleur des familles, mais dit également qu'il y a de sérieuses questions à se poser sur le travail des policiers.
Je me pose encore aujourd'hui plusieurs questions. Est-ce qu'on a tout fait pour tenter de l'arrêter sécuritairement? Est-ce qu'on a agi peut-être trop rapidement? Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de porter un jugement, mais disons que, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une équipe multidisciplinaire, peut-être des travailleurs sociaux, des psychologues qui étaient présents sur la scène? Je pense qu'on est en droit de se poser des questions. Moi, j'ai été ébranlé par ça.
Le premier ministre du Québec, François Legault, qui a aussi réagi pour une première fois aux événements, on peut l'écouter.
Étant donné que c'est quelqu'un qui était déjà ciblé, pourquoi il a été relâché? Est-ce qu'il faut resserrer? Je suis content quand même du travail qui a été fait par les policiers. Là. Ils ont agi rapidement.
Tu le disais en début d'émission, il y a encore plusieurs questions sans réponse. On a quand même une réponse ce soir. On a appris au cours des dernières minutes que le suspect avait obtenu son arme de manière illégale. Et ça soulève par contre des questions sur la facilité d'accès sur le marché noir ici à Montréal.
Merci beaucoup, Louis-Philippe. Plaisir. Est-ce que c'est un drame qu'on aurait pu prévenir? Est-ce qu'on libère les personnes à risque trop facilement? Avec nous, le psychiatre Gilles Chamberlain. Bonsoir, Dr. Chamberlain.
Bonsoir.
Personne n'est contre la vertu et on veut tous voir les gens complètement libres. Mais dans un cas comme celui-là, un homme qui refuse d'admettre qu'il est malade, qui refuse de prendre sa médication, qui est interné à répétition, est-ce qu'on ne prend pas un risque trop grand, trop élevé en le remettant en liberté?
C'est bien possible. Je voudrais commencer par faire une petite nuance. Tout pointe vers lui comme accusé, mais il n'a pas encore été reconnu coupable. Je vais juste faire cette nuance.
Vous faites bien de le mentionner. C'est un présumé tueur.
La suite, et là, Bon, écoutez, c'est clair qu'il y a deux philosophies qui s'affrontent, là, comme on disait. Là. Une philosophie que les citoyens sont libres, on fait tout pour leur redonner leur liberté, pour minimiser les contraintes à la liberté. Donc, la commission d'examen, il y a une logique là, dans les décisions qu'elle prend. La Cour suprême a jugé que si quelqu'un ne présente pas un risque sérieux pour la société, la commission d'examen doit le libérer inconditionnellement. Ça veut dire que la personne n'a aucun compte à rendre, elle n'est pas obligée de se rendre à ses suivis, pas obligée de prendre sa médication, elle n'est pas obligée de pas prendre de drogue. Et quand même, c'est assez facile à atteindre, ça, pour un patient. Il faut que l'hôpital ou les gens qui vont faire les rapports, on tire la conclusion que la personne présente un danger sérieux pour la société. Sinon, la commission ne peut rien faire.
Donc, la question de la médication, juste la clarifier cette question-là. Est-ce que il y a moyen d'obliger quelqu'un ou s'assurer que quelqu'un respecte sa médication et la prend pour assurer justement sa propre sécurité et celle des autres, ou il n'y a aucun moyen?
Oui, il y a un moyen, mais ce n'est pas la commission d'examen. La commission d'examen, tout ce qu'elle peut faire, c'est ordonner la prise, mais elle ne peut pas imposer la prise. Donc, si le patient ne la prend pas, on va le réhospitaliser. Pour pouvoir traiter quelqu'un contre son gré, il faut aller chercher une ordonnance de la Cour supérieure et démontrer que la personne est inapte à consentir et démontrer que le traitement serait utile pour cette personne-là. Donc, c'est deux procédures différentes. Il y a aussi une façon où on peut superviser la prise de la médication. Premièrement, on peut donner une médication par injection, des antipsychotiques, à chaque mois, mais c'est une médication qui n'est pas aussi finement ajustée, puis on n'a pas accès aux mêmes médicaments que quand on la donne par la bouche. Il y a aussi des résidences où les patients peuvent aller en mitoyen avant d'avoir un appartement à eux-mêmes. Et ces résidences-là peuvent superviser la prise de la médication. Mais même là, on a des patients, nous, sur l'unité, où on réalise pendant un certain temps qu'ils ont réussi à ne pas la prendre, malgré le fait qu'on leur donnait et qu'on supervisait la prise.
Docteur Chamberlain, il reste 30 secondes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir le système de remise en liberté? Et est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour assurer la sécurité des gens?
Écoutez, la Cour suprême a établi la balise. C'est difficile de changer ça, ça prendra une loi. Mais je pense que d'exiger que ça prend un danger sérieux pour la société, c'était simplement un danger. Surtout que les restrictions qu'on met aux patients ne sont pas si lourdes que ça quand ils sont déjà à l'extérieur. Ils sont libérés inconditionnellement, des fois un peu facilement. On voit les portes tournantes, même pour la commission d'examen, des gens qui ont été dangereux, qui sont libérés et qui redeviennent dangereux. On devrait pouvoir éviter ça.
Merci beaucoup, Dr. Chamberlain, d'avoir été avec nous ce soir.
Plaisir. Au revoir.
C'est dans ce contexte d'augmentation des violences armées partout au pays que le gouvernement fédéral devance au 19 août l'interdiction d'importer des armes de poing au Canada. Mesure qui était déjà prévue là, dans le projet de loi C-21 sur le gel national concernant la vente et la détention de ces armes au pays. Le projet de la loi C-21 sera débattu de nouveau à l'automne. L'international, maintenant, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan continue de créer des remous. La Chine met fin à sa collaboration avec les États-Unis sur certains dossiers, dont le réchauffement climatique. Je rappelle que Nancy Pelosi s'est rendue à Taïwan malgré des menaces répétées. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis termine sa tournée asiatique au Japon. Des vagues, oui, bien, elle en a fait avec ce voyage. D'ailleurs, Mélanie Joly a confirmé que tous les ambassadeurs et chargés d'affaires du G7 avaient été sermonnés par les Chinois. Le membre associé de la chaire Raoul Nandurand, Guillaume Lavoie, est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Lavoie.
Bonsoir.
Pourquoi la Chine est sur les dents à ce point-là, comme ça?
De tous les sujets sur lesquels un pays peut être chatouilleux, Taïwan est le sujet le plus irritable pour la Chine, parce que depuis Mao, et même son héritier aujourd'hui, c'est le président actuel, Xi Jinping, son héritier politique, si on veut, la grande vision de la Chine, c'est de réunir la grande famille chinoise, dont Taïwan fait partie. Alors, pour la Chine, lorsque quelqu'un à l'étranger prononce le nom de Taïwan autrement comme étant directement dans le territoire de la Chine, c'est considéré comme un affront et quelque chose qui agace au plus haut point.
Et quand ça agace, bon, on y va des fois avec des menaces, des armes, des avions. Il y a des mouvements de troupes, des avions qui survolent des zones taïwanaises, des missiles qui tombent dans des zones japonaises. Est-ce que ça sent la guerre?
On pourrait le penser à voir les images. Évidemment, il faut garder en tête que toute guerre qui commencerait dans le détroit de Taïwan aurait des conséquences terrifiantes, là. Vous avez d'un côté la Chine, qui est une puissance nucléaire. Les États-Unis le sont aussi. Alors, le monde n'a rien à gagner. Il faut que cette guerre-là reste très froide. C'est très, très, très important.
Bon. Ça se passe.
Évidemment.
Oui, allez-y.
Ben, j'allais dire que les Chinois, la dernière fois que les Chinois avaient essayé de cerner Taïwan, c'était sous la présidence de Bill Clinton, la Chine n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui ou l'importance mondiale qu'elle a aujourd'hui. Donc, bien sûr que la Chine va montrer des muscles et le monde entier va peut-être faire le même coup qu'avant, mais on a un adversaire ici qui est beaucoup plus déterminé et beaucoup plus mieux équipé pour le faire. Et n'oublions pas que Xi Jinping, le fameux président chinois, lui a un congrès en novembre pour obtenir un historique troisième mandat. Alors lui, de se faire narguer par Mme Pelosi qui viendrait en visite, ça tombe pas bien pour son agenda politique.
Cela voit, il reste 30 secondes, je veux parler des impacts d'un éventuel conflit ou d'un possible conflit. Il y en aurait un peu partout, même chez nous, là.
Et vous faites bien de le mentionner parce que Taïwan, c'est un super méga producteur de ce qu'on appelle les semi-conducteurs, les puces électroniques que vous avez de vos grippins jusqu'aux avions à réaction. Si jamais ça s'était mis en danger, c'est l'économie du monde. On en manque déjà, on en manquera encore plus.
Alors oui, on pense aux voitures, entre autres. Guillaume Lavoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Au plaisir.
Parler maintenant de la pilule abortive. C'est un médicament qui permet aux femmes d'avorter. Médicament cependant méconnu des Québécoises. Le 14 juillet dernier, vous vous souviendrez peut-être, il y a le Collège des médecins qui a levé plusieurs obligations médicales qui limitaient l'accès à cette pilule abortive. Et dès l'automne, les sages-femmes pourront à leur tour prescrire le médicament. C'est un pas de plus vers un meilleur accès à l'avortement, selon les sages-femmes qui ont été rencontrées par ma collègue Camille Lorrain-Desjardins.
C'est un gros pas pour notre pratique professionnelle, ça c'est certain. Je pense aussi que ça va contribuer à améliorer l'accès à la pilule abortive pour les femmes du Québec.
J'ai envie de saluer là, le geste de l'Ordre des sages-femmes pour surtout le message social que ça envoie. Dans leur champ de pratique, ils s'occupent des grossesses normales et le fait que les sages-femmes viennent s'enquérir de leurs droits de pratique à ce niveau-là, ça vient envoyer selon moi le message qu'avoir une grossesse qui est interrompue, ça fait partie du cours normal d'une santé reproductive.
Le fait qu'on traitait l'avortement par médicament séparément du restant de la médecine, moi, je pense que ça, c'est venu entretenir un certain tabou puis une méconnaissance de ce médicament-là et par les patientes et par les médecins ou autres professionnels de la santé, parce qu'on faisait comme si c'était quelque chose de comme vraiment compliqué, vraiment complexe, qu'on devait traiter à part, qu'il fallait une formation spéciale. Je pense pas que ça venait normaliser le fait que c'est un soin de santé reproductive que beaucoup d'entre nous vont avoir dans leur vie puis que c'est pas plus dramatique que ça.
Est-ce que tu dirais que c'est encore une solution qui est méconnue par les femmes ici au Québec?
Tout à fait. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Puis je pense que, entre autres, le ministère de la Santé ou le gouvernement n'ont pas fait encore une espèce de déploiement de cette méthode-là ou une campagne d'information. Je pense que ça serait nécessaire parce que, entre autres, la pilule du lendemain et la pilule abortive sont confondues.
Les statistiques le disent, là, que la majorité des femmes vont aller vers l'avortement chirurgical, là, qu'on connaît plus. Probablement pas parce que c'est ce qu'elles préfèrent, mais parce que justement, c'est pas assez connu encore. Et jusqu'à tout récemment, Santé Canada exigeait que les professionnels suivent des formations assez exhaustives, complètes et longues, ce qui fait que ça diminuait aussi moins de professionnels pour la prescrire, moins d'accès.
Actuellement, l'accès, c'est environ 63 jours après le début des menstruations qu'on peut avoir accès à cette méthode-là. Et c'est tout l'enjeu, finalement, d'y avoir accès parce que ça vient très vite. Ça donne 9 semaines, finalement, depuis les dernières menstruations.
Certainement, on recevait beaucoup de questions. Moi, dans les deux cliniques d'avortement où je travaille, on offrait les deux options depuis quand même plusieurs années. Mais certainement, on voit que le nombre de rendez-vous, la vitesse du premier rendez-vous peut influencer là, sur le choix des femmes parce que certaines, justement, on les voyait trop tard.
Ça comporte certains avantages. Donc, le fait de pouvoir avoir un avortement dans son intimité, donc à la maison, entouré d'une personne de son choix, parce qu'il faut savoir que c'est pas toutes les cliniques d'avortement au Québec qui permettent d'avoir un accompagnateur dans la salle même. C'est une méthode qui est efficace puis super sécuritaire.
Souvent, les femmes me disent c'est quoi la meilleure méthode. Puis je dis, on n'a pas, c'est celle qui correspond à tes désirs, tes préférences, tes valeurs. C'est pour ça que c'est important de maintenir l'accès aux deux options. Puis il y a encore des barrières à l'accès et par instrument et par médicament au Québec. Puis j'espère au moins que toute cette discussion plus publique qu'on a eue autour de l'avortement récemment avec ce qui se passe aux États-Unis va peut-être permettre que les gens se questionnent plus ouvertement. Dans ma région, dans ma ville, c'est quoi les barrières à l'avortement? Est-ce que l'accès au service est bon? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est sans jugement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer?
Parlons de sport maintenant parce que l'Omnium de tennis Banque nationale a débuté ce matin avec les qualifications. On a appris que malheureusement, les joueurs en tête du classement mondial, Novak Djokovic et Rafael Nadal, n'y seront pas, mais que les Canadiens Vacek Pospisil et Alexis Gallarneau de Laval ont obtenu un laissez-passer pour le tableau principal du tournoi. On retrouve Alexis Gallarneau au stade IGA où va se dérouler l'Omnium. Bonsoir, Alexis.
Bonsoir, Michel. Vous
avec ce laissez-passer, j'imagine que ça va bien parce que tu es assuré de jouer dans le tournoi. C'est ta première participation dans un tournoi Master 1000. Et ça se passe ici à Montréal. Comment tu reçois ça de jouer? Comment tu vois ça de jouer ici devant une foule québécoise?
Ouais, c'est pour moi, c'est un rêve de pouvoir jouer devant la foule montréalaise. Je me suis entraîné ici toute ma vie. Donc, non, je suis super excité de jouer, puis c'est une belle surprise pour moi. Donc, très reconnaissant envers Eugène Lapierre et Tennis Canada.
Hey, tu connais une grande progression quand même. Tu es passé du 378e rang au 238e rang mondial. Tu souhaites atteindre le top 200, le top 100, puis le top 30, j'imagine. C'est quoi les prochaines étapes dans ta carrière pour arriver à monter ces échelons?
Ouais, comme tu l'as dit, c'est d'y aller étape par étape. Donc, la prochaine étape, c'est d'être dans le top 200. Pour y arriver, bien, ça va être de continuer de travailler sur les objectifs qu'on s'est fixés avec mon entraîneur. Ensuite, dans le top 100, ça va être de développer peut-être une arme qui va me faire gagner des matchs. Puis après, dans le top 30, bien, c'est tout le travail à travers les années qui va prendre
son air
puis va se développer exactement.
Tu vas côtoyer quand même les meilleurs joueurs du circuit. Malheureusement, pas Rafael Nadal, là, une de tes idoles. Comment tu as appris la nouvelle de son retrait du tournoi ce matin?
Ouais, c'est triste comme nouvelle, mais je pense que pour lui, c'est de se focusser aussi sur les grands chelems. Pour l'instant, son corps ne lui permet pas de compétitionner à chaque semaine, donc, en espérant qu'il soit prêt pour US Open.
Qu'est-ce que tu souhaites tirer de cette expérience, justement, à côtoyer les meilleurs joueurs au cours des prochains jours?
Ouais, ça va être de voir un peu, d'observer comment ils font les choses, de voir leur routine, de voir leur match, la qualité de balle, tout ce qui est tennis et hors tennis aussi. Pour mon entraîneur aussi, ça va être une super bonne semaine pour voir sur quoi on doit travailler puis sur quoi on doit continuer de mettre l'emphase.
Tu vas affronter Grigor Dimitrov, 19e raquette mondiale. Comment tu vas te préparer? Comment tu te prépares pour ce premier match-là?
Ouais, premièrement, je connais Dimitrov pour l'avoir vu jouer tellement de fois. Donc, c'est sûr que ça va être un bon match, super bon joueur. Ensuite, mon entraîneur, il va bien préparer le match. Moi, je vais aussi donner un peu mon opinion sur quoi on doit focusser. Mm-hmm. Puis après, bien, ça va être de bien préparer les journées avant le match, puis d'aller s'amuser.
On est derrière toi. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Bon match. Bye-bye.
Bonsoir, Jesse Précieuse, votre météorologue préféré à l'appareil. Est-ce que je vous ai manqué parce que vous m'avez manqué?
Vous la reconnaissez peut-être, sinon vous la découvrez. Elle s'appelle Jesse Précieuse. Elle est présentatrice météo à Météo Média. Elle travaille que pendant la semaine de la fierté. Le reste du temps, en fait, c'est Alex Verville qui occupe le poste. Elle est avec moi ce soir dans le cadre, entre autres, des festivités de la fierté. Bonsoir, Jesse.
Bonsoir.
Merci d'être là.
Bien, merci
à vous. On t'a invité parce que c'est quand même... quelque chose que tu fais, c'est de la pure inclusion dans le milieu du travail. C'est la deuxième année que tu fais ça, de présenter la météo. J'imagine que c'est Alex qui a présenté le projet à ses patrons. Comment ça a été présenté?
Oui, non, Jesse n'est pas arrivé au bureau un matin en disant « Bonsoir tout le monde, engagez-moi! » Mais c'est que Météo Média, c'est très inclusif à l'interne. Puis je trouvais qu'à l'écran, on le voyait pas énormément. Fait que quand on a eu fierté l'an passé, surtout que les festivités étaient so-so en raison de la pandémie.
On voit Alex, là?
Oui, ça, c'est la personne derrière tout ce beau maquillage. J'ai décidé de juste essayer. Ouais. Je l'ai proposé à mon boss juste pour
faire... Et ça a été bien accueilli
tout
de suite?
Ben oui, ça a pris 4 secondes.
Comment est née Jessie, d'ailleurs?
Elle est née de Météo Média. J'avais jamais touché à du maquillage, puis à Météo Média, je me maquillais moi-même. Puis à un moment donné, j'étais comme « Hey, je veux aller plus loin là-dedans », puis ça était un peu trop loin, je pense.
En tout cas, il y a de l'ouverture, certainement, auprès de tes patrons ont été très ouverts. Parce que l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ+, c'est pas toujours simple en milieu du travail, encore en 2022. Là.
Non, même dans le domaine des médias, qui est un domaine très ouvert, dans mon passé, j'ai été à l'emploi de plusieurs endroits où est-ce que je devais me battre pour être qui je suis. J'ai eu des endroits où je pouvais même pas parler que j'étais homosexuel à la radio. Mm-hmm. Il fallait que je me cache. Donc, de voir ça à Météo-Média, j'étais quand même surpris. On a l'idée que la météo, c'est super sérieux, mm-hmm. dans une boîte. Puis là, ben, j'ai carte blanche à Météo-Média.
Et les dragues, on les voit régulièrement maintenant, de plus en plus à la télé. Mais ce sont des personnages de scène, alors que... Ouais. Jesse, c'est à la télé, qui nous présente des informations météo. Il y a beaucoup de gens qui saluent l'initiative, mais il y en a d'autres qui, quand même, j'imagine, réagissent plutôt mal. Comment tu réagis avec les commentaires?
Bien, c'est plus grand que soi. Faut pas... Je prends pas ça personnel. Au final, tout le monde a droit à son opinion. Puis souvent, c'est ceux qui ont une opinion négative qui vont en parler un peu plus fort. Donc, je vois que c'est un peu plus grand. C'est juste un peu épeurant, je dirais, pour le futur, si je peux dire ça comme ça, parce que pour moi, ça m'atteint pas tant que ça, mais... Je regarde le big picture au final, puis je suis comme, la prochaine génération, j'aimerais pas ça que mon père m'ait dit des affaires comme ça quand j'étais jeune.
T'sais. Et t'effaces pas ces messages haineux, des fois?
J'en ai laissé beaucoup cette année parce que je trouve qu'il faut qu'on le voit. Faut qu'on voit qu'il y a encore de l'homophobie, puis qu'il y a une raison pour laquelle je suis à la télé en drague en ce moment, puis que c'est pas juste pour le plaisir. Mm-hmm. C'est une revendication, oui, mais c'est aussi un gros statement, pardonnez-moi l'anglicisme.
Et bien sûr, ben, normalement, tu parles météo. Fait qu'on a envie de te garder avec nous. Après la pause, on va parler un petit peu météo, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. On s'arrête quelques minutes. À tout de suite. Petit message à ceux qui n'étaient pas avec nous avant la pause. Je vous présente une invitée qu'on avait avant la pause. Elle s'appelle Jessie Précieuse, présentatrice météo chez Météo Média. Elle travaille seulement pendant la semaine de la fierté à Montréal. Normalement, c'est Alex Verville qui se cache derrière ce costume et en onde. Bon, rebonsoir, Jessie.
Rebonsoir.
On t'a gardé, pourquoi? Parce qu'on voulait parler un peu de météo, parce qu'il va faire chaud en fin de semaine. Il y a des avertissements là, en vigueur sur une bonne partie du Québec.
Bien oui, surtout sur le site de la province. C'est fierté en plus à Montréal présentement, les dernières festivités. Il va y avoir beaucoup de gens à l'extérieur. De l'humidité en haut de 40, c'est suffocant.
Oui, hein?
Fait chaud. Amener de l'eau?
Alors, là, on dit chaud pas mal, là. Jusqu'à quoi? J'avais 30 degrés Celsius samedi, dimanche, minimum.
Chaud, ça va. Tu sais, 30, on est capable de prendre ça. C'est l'humidité. En haut de 40, je pense que c'est arrivé une fois pendant l'été, jusqu'à date. Donc, on l'a pas vécu souvent. On a besoin de
se rappeler. Mais ça dure pas longtemps. Alors, beaucoup d'eau pour le défilé. Ouais. Hey, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Bonne fin de fierté à Montréal. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. C'est Étienne qui sera avec vous à 22h. Au cours des prochains jours également, je prends quelques semaines de vacances. Je vous retrouve le 29 août. À très, très bientôt. Bye-bye.